communautés imaginaires. De même que la famille nucléaire, la communauté ne pouvait entièrement disparaître de notre monde sans substitut émotionnel. De nos jours, marchés et États satisfont l'essentiel des besoins matériels auxquels pourvoyaient autrefois les communautés, mais ils doivent aussi veiller aux liens tribaux. Marchés et États le font en encourageant des communautés imaginaires qui contiennent des millions d'inconnus et qui sont adaptées aux besoins nationaux et commerciaux. Une communauté imaginaire est une communauté de gens qui ne se connaissent pas vraiment, mais imaginent se connaître. Ces communautés ne sont pas une invention récente. Royaumes, empires et églises ont fonctionné des millénaires durant sous forme de communautés imaginaires. Dans la Chine antique, des dizaines de millions de gens se pensaient membres d'une même famille, dont l'empereur était le père. Au Moyen Âge, des millions de musulmans s'imaginaient frères et sœurs dans la grande communauté de l'islam. Tout au long de l'histoire, cependant, ces communautés imaginaires ont été des seconds violons, passant après les communautés intimes de plusieurs dizaines de personnes qui se connaissaient vraiment très bien. Les communautés intimes comblaient les besoins émotionnels de leurs membres et étaient essentielles à la survie et au bien-être de tous. Au cours des deux derniers siècles, les communautés intimes ont dépéri, laissant les communautés imaginaires occuper le vide émotionnel. La nation et la tribu des consommateurs sont les deux exemples les plus importants de ces communautés imaginaires. La nation est la communauté imaginaire de l'État. La tribu des consommateurs, la communauté imaginaire du marché. Toutes deux sont des communautés imaginaires parce qu'il est impossible à tous les clients d'un marché ou à tous les ressortissants d'une nation de se connaître réellement comme les villageois se connaissaient jadis. Aucun Allemand ne saurait intimement connaître ses quelque 80 millions de concitoyens, ni les 500 millions de consommateurs du marché commun, qui s'est ensuite transformé en communauté européenne puis en Union européenne. Le consumérisme et le nationalisme font des heures supplémentaires pour nous persuader que des millions d'inconnus appartiennent à la même communauté que nous, que nous avons tous un passé commun, des intérêts communs et un futur commun. Ce n'est pas un mensonge, c'est de l'imagination. Comme la monnaie, les sociétés anonymes à responsabilité limitée et les droits de l'homme, les nations et les tribus de consommateurs sont des réalités intersubjectives. Elles n'existent que dans notre imaginaire collectif. Mais leur pouvoir est immense. Tant que des millions d'Allemands croient à l'existence d'une nation allemande, s'excitent à la seule vue de symboles nationaux, racontent des mythes germaniques et sont prêts à sacrifier argent, temps et membres pour leur nation, l'Allemagne restera une des plus grandes puissances du monde. La nation fait de son mieux pour cacher son caractère imaginaire. La plupart des nations se présentent comme une entité naturelle ou éternelle, créée à quelque époque primordiale, en mêlant le sang des hommes au sol de la mère patrie. Or, ces allégations sont habituellement exagérées. Les nations ont existé dans un passé lointain, mais leur importance était bien moindre qu'aujourd'hui, parce que l'importance de l'État était beaucoup plus réduite. Au Moyen Âge, un habitant de Nuremberg pouvait éprouver quelque loyauté envers la nation allemande, mais sa loyauté était autrement plus forte envers sa famille et sa communauté locale, qui pourvoyaient à l'essentiel de ses besoins. De surcroît, quelle qu'ait pu être l'importance des nations anciennes, peu ont survécu. La plupart des nations existantes sont apparues après la révolution industrielle. Les exemples abondent au Moyen-Orient. Les nations syriennes, libanaises, jordaniennes et irakiennes sont le produit de frontières aléatoires, tracées dans le sable par des diplomates français et britanniques, ignorant l'histoire, la géographie et l'économie locale. Ces diplomates décidèrent en 1918 que la population du Kurdistan, de Bagdad et de Bassora serait dorénavant les Irakiens. Ce sont surtout les Français qui décidèrent qui serait Syrien, qui serait Libanais. Saddam Hussein et Hafez al-Assad firent de leur mieux pour promouvoir et renforcer leur conscience nationale de fabrication anglo-française. Mais leurs discours emphatiques sur les nations syriennes et irakiennes, prétendument éternelles, sonnaient creux. Il va sans dire qu'on ne saurait créer une nation à partir de rien. Ceux qui se donnèrent du mal pour construire l'Irak et la Syrie utilisèrent des matériaux bruts historiques, géographiques et culturels, pour certains vieux de plusieurs siècles, voire de millénaires. Saddam Hussein coopta l'héritage du califat abbasside et de l'empire babylonien, allant jusqu'à donner le nom de division Hammurabi à une de ses unités blindées d'élite. Pour autant, cela ne fait pas de l'Irak une entité ancienne. Si je fais un gâteau avec de la farine, de l'huile et du sucre qui traînent dans mon garde-manger depuis 2 mois, cela ne veut pas dire que mon gâteau soit vieux de 2 mois. Au fil des dernières décennies, les communautés nationales ont été de plus en plus éclipsées par des foules de consommateurs qui ne se connaissent pas intimement, mais partagent les mêmes habitudes et intérêts de consommation et ont donc le sentiment de faire partie de la même tribu de consommateurs et se définissent comme tels. Si étrange que cela paraisse, les exemples abondent autour de nous. Les fans de Madonna, par exemple, constituent une tribu de consommateurs. Ils se définissent largement par le shopping, achètent des billets pour les concerts de Madonna, des CD, des posters, des t-shirts et des sonneries pour téléphone portable, et ainsi définissent-ils ce qu'ils sont. Les supporters de Manchester United, les végétariens et les écolos en sont d'autres exemples. Eux aussi se définissent avant tout par ce qu'ils consomment. C'est la clé de voûte de leur identité. Un végétarien allemand préférerait sans doute épouser une végétarienne française plutôt qu'une carnivore allemande. Perpetuum mobile. Les révolutions des 2 siècles passés ont été si rapides et si radicales qu'elles ont changé la caractéristique la plus fondamentale de l'ordre social. Traditionnellement, celui-ci était dur et rigide. Ordre impliquait stabilité et continuité. Les révolutions sociales rapides était exceptionnelle, et la plupart des transformations sociales résultaient de l'accumulation d'une multitude de petits pas. Les hommes avaient tendance à supposer que la structure sociale est inflexible et éternelle. Familles et communautés pouvaient bien lutter pour changer de place au sein de l'ordre, l'idée qu'on puisse en modifier la structure fondamentale leur restait étrangère. Les gens avaient tendance à s'accommoder du statu quo. Il en a toujours été ainsi, il en ira toujours ainsi. Au cours des 2 derniers siècles, le rythme du changement a été si rapide que l'ordre social a acquis une nature dynamique et malléable. Il est désormais en perpétuel mouvement. Quand nous parlons des révolutions modernes, nous avons tendance à penser 1789, révolution française, 1848, révolution libérale, ou 1917, révolution russe. Mais le fait est que, ces temps-ci, chaque année est révolutionnaire. De nos jours, quelqu'un de 30 ans peut honnêtement dire à des adolescents incrédules « Quand j'étais jeune, le monde était entièrement différent. » L'Internet, par exemple, ne s'est généralisé qu'au début des années 1990. Voici une petite 20aine d'années. On ne saurait imaginer le monde sans lui aujourd'hui. Dès lors, essayer de définir les caractéristiques de la société moderne, c'est un peu vouloir définir la couleur d'un caméléon. La seule caractéristique dont on puisse être certain, c'est que le changement est incessant. Les gens s'y sont habitués, et la plupart d'entre nous pensons à l'ordre social comme à quelque chose de flexible, que nous pouvons manipuler et améliorer à volonté. La grande promesse des souverains prémodernes était de préserver l'ordre traditionnel, ou même de revenir à quelque âge d'or perdu. Depuis 2 siècles, la politique vit de la promesse de détruire le vieux monde pour en construire un meilleur à sa place. Même les partis les plus conservateurs se gardent bien de jurer de maintenir simplement les choses en l'état. Tous promettent réforme sociale, réforme de l'éducation et réforme économique, et souvent, ils tiennent leurs promesses. De même que les géologues s'attendent à ce que les mouvements tectoniques se traduisent par des tremblements de terre et des éruptions volcaniques, de même, nous pourrions imaginer que des mouvements sociaux drastiques se solderont par de sanglantes explosions de violence. L'histoire politique des 19e et 20e siècles est souvent racontée comme une série de guerres meurtrières, d'holocaustes et de révolutions. Tel un enfant chaussé de bottes neuves qui saute de flaque en flaque, l'histoire avance d'un bain de sang à l'autre. De la Première Guerre mondiale à la Seconde et à la Guerre froide, du génocide arménien à la Shoah et au génocide rwandais, ou de Robespierre à Lénine et à Hitler. Il y a du vrai là-dedans. Mais cette liste de calamités, qui ne nous est que trop familière, est un peu trompeuse. Nous nous focalisons à l'excès sur les flaques et oublions la terre sèche qui les sépare. La fin des temps modernes a vu des niveaux sans précédent de violence et d'horreur, mais aussi de paix et de tranquillité. Charles Dickens a pu ainsi écrire de la Révolution française qu'elle fut le meilleur des temps et le pire. Sans doute est-ce vrai non seulement de la Révolution de 1789, mais aussi de toute l'époque qu'elle annonça. C'est particulièrement vrai des 7 décennies écoulées depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Au cours de cette période, l'humanité a été pour la première fois confrontée à la possibilité d'un auto-anéantissement total et a connu bon nombre de guerres et de génocides. Mais ces décennies ont aussi été l'ère la plus pacifique de toute l'histoire humaine, et de beaucoup. C'est d'autant plus surprenant que ces mêmes décennies ont connu plus d'un changement politique, économique et sociaux que toute autre époque. Les plaques tectoniques de l'histoire se déplacent à une vitesse effroyable, mais les volcans se taisent le plus souvent. Le nouvel ordre élastique paraît capable de contenir et même d'initier des changements structurels radicaux sans dégénérer en conflits violents. La paix aujourd'hui. La plupart des gens mesurent mal à quel point nous vivons dans une époque pacifique. Aucun de nous ne vivait il y a un millénaire, si bien que nous oublions facilement à quel point le monde était plus violent. Et alors même qu'elles deviennent plus rares, les guerres attirent davantage l'attention. Beaucoup plus de gens pensent aux guerres qui font rage aujourd'hui en Afghanistan et en Irak qu'à la paix dans laquelle vivent désormais la plupart des Brésiliens et des Indiens. Qui plus est, il est plus facile de rapporter la souffrance d'individus que celle de populations entières. Cependant, pour apprécier les processus macro-historiques, il nous faut examiner les statistiques générales plutôt que les histoires individuelles. En l'an 2000, la guerre causa la mort de 310 000 personnes et les crimes violents provoquèrent la mort de 520 000. Chaque victime est un monde qui est détruit, une famille ruinée, des amis et des parents meurtris à vie. Dans une perspective macro, cependant, ces 830 000 victimes ne représentent que 1,5% des 56 millions de personnes mortes cette année-là, dont 1 260 000 victimes d'accidents de la route, 2,25% de la mortalité totale, et 815 000 qui se sont suicidés, 1,45%. Les chiffres pour 2002 sont encore plus surprenants. Sur 57 millions de morts, 172 000 seulement sont morts de la guerre et 569 000 de crimes violents, soit un total de 741 000 victimes de violences humaines pour 873 000 suicides. Le fait est que l'année qui suivit les attentats du 11 septembre, et malgré tout ce qu'on a pu dire du terrorisme et de la guerre, l'homme de la rue risquait moins de se faire tuer par un terroriste, un soldat ou un trafiquant de drogue que de mourir de sa propre main. Dans la majeure partie du monde, les gens vont se coucher sans craindre qu'au milieu de la nuit, une tribu voisine vienne entourer leur village et massacrer tout le monde. Les sujets britanniques aisés traversent quotidiennement la forêt de Sherwood pour se rendre de Nottingham à Londres, sans craindre qu'une bande de joyeux brigands tout de vert vêtus ne leur tende une embuscade et ne les dépouille de leur argent pour le donner aux pauvres, ou plus probablement les trucide et garde l'argent pour elles. Les élèves ne supportent plus les coups de trique de leur maître, les enfants n'ont plus à craindre d'être vendus en esclavage quand leurs parents ne peuvent plus payer leurs factures, et les femmes savent que la loi interdit à leur mari de les frapper et de les forcer à rester à la maison. De plus en plus à travers le monde, ces espérances sont réalisées. Le déclin de la violence est largement dû à l'essor de l'État. Tout au long de l'histoire, la violence est le plus souvent née d'affrontements locaux entre familles et communautés. Aujourd'hui encore, les chiffres ci-dessus l'indiquent, le crime local est une menace bien plus meurtrière que les guerres internationales. Les premiers cultivateurs, dont la communauté locale était l'organisation politique la plus importante, souffraient d'une violence endémique. En se renforçant, royaumes et empires devaient serrer la bride aux communautés, en sorte que le niveau de violence décrut. Dans les royaumes décentralisés de l'Europe médiévale, entre 20 et 40 habitants sur 100 000 étaient assassinés chaque année. Dans les dernières décennies, alors que les États et les marchés sont devenus tout puissants et que les communautés ont disparu, les taux de violence ont continué de baisser. La moyenne générale actuelle est de 9 meurtres par an pour 100 000 habitants, et la plupart de ces crimes ont lieu dans des États faibles tels que la Somalie et la Colombie. Dans les États centralisés d'Europe, la moyenne est de 1 meurtre par an pour 100 000 habitants. Il est certainement des cas où les États emploient leurs forces pour tuer leurs citoyens, et ces épisodes occupent une grande place dans nos mémoires et nos peurs. Au XXe siècle, des dizaines, voire des centaines de millions de gens ont été victimes des forces de sécurité de leurs propres États. Reste que, dans une perspective macro, les tribunaux et les forces de police relevant de l'État ont probablement accru le niveau de sécurité mondiale. Même dans les dictatures oppressives modernes, l'homme de la rue risque moins de mourir entre les mains d'une autre personne que dans les sociétés prémodernes. En 1964, l'armée brésilienne prit le pouvoir et instaura une dictature qui dirigea le pays jusqu'en 1985. En l'espace de 20 ans, le régime assassina plusieurs milliers de Brésiliens. Des millions d'autres furent incarcérés et torturés. Même durant les pires années, le Brésilien moyen de Rio de Janeiro risquait bien moins de se faire tuer par des hommes que le Waorani, Arawete ou Yanomami moyen, indigènes qui vivent au fin fond de la forêt amazonienne, sans armée, ni police, ni prison. Des études anthropologiques ont montré qu'entre un quart et la moitié des leurs meurent tôt ou tard dans des conflits violents pour des questions de propriété, de femmes ou de prestige.